Le temps des cerfs, ne soyons pas des chiens muets, c'est le titre du livre que Mgr Marcaillet a publié aux éditions Artege. À l'invitation de Radio Lapourdi et de la communauté de Belloc, Mgr Marcaillet a présenté son livre lors du cycle Les Samedis de Belloc, le 18 novembre 2023. Voici son intervention.
Pourquoi ce livre ? D'abord parce que c'est une commande de l'éditeur. L'édition Artege m'avait demandé, il y a déjà un peu plus de 2 ans, si je voulais bien écrire un livre pour donner une parole d'évêque sur une situation un peu confuse que nous connaissons aujourd'hui dans le peuple chrétien, dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Et donc finalement j'ai accepté dans le but d'encourager à la fois des prêtres, des consacrés, des fidèles laïcs, jeunes et moins jeunes, que j'ai pu rencontrer ici ou là, non seulement dans le diocèse, mais aussi en dehors du diocèse, et qui m'ont paru inquiets face à la crise, que l'Église traverse aujourd'hui. Sans doute aussi pour dissiper quelques malentendus qui sont entretenus au sein du peuple chrétien sur des fondamentaux de la foi. En bon visionnaire, Joseph Ratzinger, qui n'était alors que professeur de théologie à Ratisbonne, dans une interview fameuse par une radio allemande où il était interrogé sur l'avenir de l'Église, disait en 1969, entendez bien, « La crise de l'Église ne fait que commencer ». Et je dirais que cette crise s'exprime aujourd'hui particulièrement en termes de confusion doctrinale et morale qui affecte le peuple chrétien et qui trouve sa source dans une sorte d'éclipse de la foi, surtout dans nos pays de vieille chrétienté. Car on voit bien que cela concerne surtout nos nations de vieille chrétienté, en particulier l'Europe. Saint Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique « Ecclesia in Europa », l'Église en Europe, avait parlé d'apostasie silencieuse, où l'homme comblé vit comme si Dieu n'existait pas. Et Benoît XVI dira lui-même que le grand problème de notre temps, c'est que Dieu semble être absent de l'horizon des hommes. Apostasie silencieuse, une expression particulièrement troublante. C'est vrai qu'en temps de persécution, en particulier au temps des persécutions romaines, des premiers siècles de l'Église chrétienne, on pouvait apostasier parce qu'on était menacé dans sa vie, ou dans sa liberté. Aujourd'hui, on apostasie dans nos pays de vieille chrétienté sans être pour autant menacé dans sa liberté et dans sa vie. Voilà l'expression, en effet, soulignée par Jean-Paul II, d'apostasie silencieuse. En ce sens, comme je l'écris quelque part dans le livre, les statistiques, mais j'ose espérer que l'Esprit Saint fait mentir les statistiques parlent quand même d'elles-mêmes. Vous savez qu'en 1960, en France, il y avait 94% de baptême, par rapport aux naissances, bien entendu. En 2000, 40 ans plus tard, il n'y en a plus que 52%. En 2020, à savoir aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans plus tard, il n'y en a plus que 30%. En 1960, il y avait 41 000 prêtres en France. Vous savez que dans notre diocèse de Bayonne, en 1950, il y avait 956 prêtres, pour une population moindre qu'aujourd'hui, dont 200 étaient dans l'enseignement. En 2000, en France, il faut diviser le ratio 40 ans plus tard par 2, 20 000 prêtres. En 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, 20 ans plus tard, il faut encore diviser le ratio par 2, 10 000 prêtres. Je n'ose pas dire que dans 10 ans, il n'y aura plus que 5 000 prêtres. C'est vrai que pour faire un prêtre, il faut 8 à 10 ans. Et nous voyons bien que le nombre de vocations sacerdotales en France n'est pas en augmentation. Et il serait même en régression. En 1960, 25% des Français vont à la messe tous les dimanches. En 2000, 10%. En 2023, je n'ose pas dire le chiffre, je parle de la pratique dominicale de tous les dimanches, 1,8%. Nous ne pouvons pas nous en accommoder. Et j'ai envie de dire, comme je l'ai dit dans ma première lettre pastorale en 2010, l'urgence de la mission, qui reste complètement d'actualité, et si j'en crois non seulement la synthèse de cette assemblée synodale qui vient de se tenir à Rome, mais aussi les préoccupations qui ont été les nôtres durant l'assemblée plénière des évêques début novembre, La mission est urgente. Et on a insisté beaucoup au synode, contre toute attente, quand on lisait l'Instrumentum Laboris, sur la nature missionnaire de l'Église, qui rappelait ce que disait Saint Paul VI dans son exhortation apostolique, l'évangélisation du monde moderne, au numéro 14, l'Église existe pour évangéliser, pour annoncer l'Évangile. Nous n'avons pas eu moins de 3 séquences au cours de notre assemblée plénière sur la mission de l'Église. Et j'ai même fait remarquer pour ma part qu'en 15 ans d'épiscopat, 30 assemblées plénières, c'est la première fois que nous allons parler aussi longuement du cœur de cible de notre mission, qui est d'annoncer l'Évangile, en revenant d'ailleurs au texte fondateur dans lequel l'Église baigne, je parle de l'Église universelle, depuis plus de 50 ans, depuis le Concile, et en particulier depuis ce texte Évangélisation dite Paul VI sur l'évangélisation du monde moderne. Mais nous ne devons pas nous étonner non plus de cette apostasie silencieuse ou de cette éclipse de la foi. Comme j'essaie de le développer dans la conclusion de mon livre, à partir des 4 sermons de John Henry Newman, ce converti de l'anglicanisme, le fameux mouvement d'Oxford, qui, par l'étude des pères de l'Église, est venu à l'Église catholique. Il a été béatifié par le pape Benoît XVI en 2010 en Angleterre lors de son voyage apostolique. Il a été canonisé par le pape François en 2019. Il a écrit 4 sermons sur l'Antichrist. Ouh là là. Ça peut paraître une drôle de manière d'entrer en matière pour vous parler de ce livre. C'est la conclusion. Je trouve que ces 4 sermons sur l'Antichrist sont très instructifs. Saint Paul affirme que le dernier avènement du Christ, annoncé par Jésus, et c'est le moment de l'année liturgique où nous portons notre regard sur les fins dernières, la parousie, le retour du Christ dans sa gloire, le dernier avènement du Christ, sera précédé, nous dit saint Paul, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, par 2 événements. L'avènement de l'Antichrist, qu'il appelle aussi l'homme impie, et l'apostasie. Et Jésus, dans son discours eschatologique, annoncera 2 autres événements avant-coureurs de son retour dans le Christ, de son retour dans la gloire, une période de troubles et de persécutions, ce que nous lisons en particulier dans saint Matthieu chapitre 24, dans son discours dit eschatologique, qui est relatif donc à ce qui doit arriver à la fin, comme le mot eschatologique l'indique ici, et la proclamation de l'Évangile dans le monde entier. Magnifique. Et l'Évangile sera proclamé dans le monde entier pendant tout ce temps intermédiaire que saint Luc appelle le temps des païens. Le catéchisme de l'Église catholique y fait référence explicitement. Ce n'est pas une manie que de s'y arrêter, c'est pas seulement le cardinal Newman qui portait ce regard. Si vous lisez au numéro 675, pardon, du catéchisme catholique, vous lisez ceci. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. C'est le numéro 675 du catéchisme de l'Église catholique. Il convient en effet de resituer la crise que nous connaissons aujourd'hui dans une vision plus globale de l'histoire, que parfois nous avons perdue, que les pères de l'Église avaient très clairement, et que Newman reprend à son compte. Depuis le premier avènement du Christ, l'histoire se déploie dans la perspective de son retour dans la gloire, qui sera précédée par la venue de l'Antichrist, lui-même, arrivant au moment au prix d'une apostasie générale. Voyez, c'est important de se dire ça. Ça permet de relire l'histoire de notre temps, qui n'est pas seulement de notre temps. Entendez bien que de l'avènement du Christ, nous savons ni le jour ni l'heure. Et bien informé serait celui qui prétendrait dire que voilà les signes, c'est maintenant. Il y a beaucoup de prophètes de malheur, et je ne m'inscris pas du tout dans cette lignée des prophètes de malheur. Tout au long de l'histoire, depuis le premier avènement du Christ, il y a eu des persécutions et des troubles. Il y a eu des éclipses de la foi. Il y a eu des apostasies. Elle se déploie dans cette perspective du retour du Christ dans la gloire, précédée par l'avènement de l'Antichrist, sur fond de persécution, mais de proclamation de l'Évangile à toute la création, selon le mandat missionnaire du Christ, qui garde toute son actualité, son urgence aujourd'hui, comme il est dit dans l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 16, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, c'est-à-dire celui qui refusera de croire, pour peu que l'évangile lui aurait été dûment annoncé, sera condamné. Ces paroles sont fortes. Elles sont évidemment dans la bouche de Jésus, comme son testament spirituel, puisque ce sont les dernières paroles qu'il prononcera avant de monter au ciel, d'après l'évangile de saint Marc. Il est manifeste que la proclamation de l'évangile, qui demeure la grande mission de l'Église, se heurtera tout au long de l'histoire à une lente récession de la foi, que Jésus a lui-même évoquée, comme vous le savez bien, lorsqu'il dit dans l'évangile, selon saint Luc, au chapitre 18, « Le Fils de l'homme, quand il viendra ». Trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous lis un petit passage de l'éditeur de ces quatre sermons de l'Antichrist sur l'Antichrist de Newman, qui ont été édités en effet par Hatzolem, et l'éditeur est Grégoire Solari, qui écrit ceci. De même que l'expansion de la foi a suivi la résurrection du Christ, de même l'expansion de l'apostasie précédera son retour glorieux, et la mesure de l'apostasie sera son comble quand saint Jean, l'incarnation du Verbe, elle s'incarnera en un individu, l'Antichrist. Et c'est un résumé de la conception que Newman se fait dans ses quatre sermons sur l'Antichrist. Tout cela n'a pas de quoi nous décourager, nous terroriser. Moi, je suis un homme pas optimiste, mais dans l'espérance, résolument, parce que le Christ est vainqueur, il est notre espérance. Et au contraire, je pense que ces sermons de Newman sur l'Antichrist, comme il le dit lui-même à la fin du quatrième sermon, je crois, est une leçon d'espérance qui nous invite à nous engager d'autant plus résolument dans la proclamation de l'Évangile et à rester ferme dans la foi, parce que le Christ est vainqueur. Et nous avons bien des raisons d'espérer. Il est probable, car c'est aussi le contexte dans lequel j'écris ce livre, et comme je le dis dans les premières pages de l'introduction, il est probable que ce climat de confusion, qui est lié d'abord à une éclipse de la foi en amont, d'une manière plus proche, soit lié, mais c'est aussi, ça n'est d'ailleurs pas indifférent non plus, est lié pour une part à la crise des abus sexuels dans l'Église, dont la révélation de l'ampleur et la prise de conscience des dégâts dramatiques causés chez les victimes, qui doivent en effet être au centre de nos préoccupations pastorales, a créé une onde de choc dans le monde sans doute, mais surtout dans l'Église. Nombre de fidèles en sont venus à douter de l'Église institution et du sacerdoce et ont été profondément blessés dans leur confiance. Ce qui ne concerne pas nécessairement, je le dis là parce que ce sont des signes d'espérance très importants pour notre Église, ce qui ne concerne pas nécessairement les catéchumènes, très curieusement. Depuis la crise des abus, nous avons vu progresser de manière exponentielle le nombre des catéchumènes adultes. Vous savez qu'entre 2022 et 2023, on est passé de 4300 baptêmes d'adultes en France à 5400 ou 500 baptêmes d'adultes en France. Et nous voyons, les curés me le disaient, les doyens lors du conseil épiscopal élargi aux doyens d'il y a quelques jours, me disaient, dans nos paroisses, on a un nombre d'adultes jeunes, qui viennent demander le baptême à l'Église, malgré les scandales. Ce qui n'est pas le cas non plus, je pense, des chrétiens profondément enracinés dans la foi, qui savent que le Christ seul est saint. Et que si l'Église est sainte, ça n'est pas parce qu'elle est composée, elle n'est composée que de saints, ça se saurait, même s'il y a beaucoup de saints, qui sont le plus beau visage de l'Église, comme dit le pape François, mais parce qu'elle possède les moyens de sanctifier les pécheurs que nous sommes. Et nous ne devons pas nous décourager devant cette puissance de la grâce capable de sanctifier les pécheurs les plus endurcis et les plus éloignés, qui sont cause bien souvent, hélas, de grands scandales et de grandes souffrances chez les victimes. Non seulement nombre de fidèles en sont venus à douter de l'Église et du sacerdoce et ont été profondément blessés dans leur confiance, mais les pasteurs que nous sommes sont tentés de faire profil bas, au point que l'Église à qui saint Jean-Paul II avait redonné sa visibilité, comme on l'a dit, que les catholiques à qui Jean-Paul II avait rendu leur fierté d'être catholique, on reviendrait à une posture d'effacement ou d'enfouissement, comme on l'a dit à un certain moment, et à douter d'elle-même. La compassion légitime pour les victimes, mais aussi l'attention pastorale aux minorités qui prend de plus en plus de place dans nos préoccupations. Ces minorités qui, dans notre société, s'imposent à la majorité de manière tapageuse et parfois agressive, jusqu'à engendrer un climat de culpabilité collective. l'opposition entretenue parfois entre doctrine et pastorale, qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. La vérité dans la charité et la charité dans la vérité. Je redirai tout à l'heure les formats mentis dans lesquels il faut s'établir pour éviter ces oppositions dialectiques qui sont héritées du marxisme, dont la dimension culturelle demeure prégnante dans notre société, y compris occidentale, alors qu'en tant que, dans l'Occident en tout cas, en tant que forme de pouvoir politique, il semble s'être effondré, pas partout. Hein. Conduisent beaucoup de pasteurs à renoncer à une parole d'autorité qui rappelle les fondamentaux de la foi et de la morale chrétienne de manière claire et nette, sans manquer pour autant à la charité pastorale. Ce faisant, on a peut-être laissé le champ libre à toutes sortes de comportements d'affirmation, voire de revendications de réforme, qui ont été largement médiatisés, qui sont portés, c'est vrai, par des chrétiens que je ne juge pas, mais je constate, qui ont toujours des comptes à régler avec l'institution ecclésiale depuis 40 ou 50 ans. Et tout cela a engendré une grande confusion doctrinale et morale au sein du peuple chrétien. D'où l'inquiétude que j'entends chez des fidèles enracinés dans la foi de l'Église, qui cherchent honnêtement, parfois héroïquement, dans le monde liquide qui est le nôtre, à vivre en cohérence avec l'Évangile, pour assumer chrétiennement leur devoir d'État et témoigner de leur foi, parfois contre vents et marées. Cette inquiétude palpable, encore une fois, ne doit pas pour autant occulter les vraies raisons que nous avons d'espérer, qui sont à chercher toujours du côté d'un renouvellement de l'élan missionnaire de l'Église. Je parle du nombre de catéchumènes adultes, et encore, c'est assez extraordinaire, parce que ces catéchumènes adultes, pour la plupart des cas, ils arrivent sans qu'on ait rien fait. Ils viennent de nulle part. Ils viennent frapper à la porte de l'Église. Je sais bien quand même qu'il y en a qui viennent des entreprises de mission que nous accomplissons, par exemple les parcours Alpha. Sont féconds dans nos paroisses de recommençants et de non-baptisés qui viennent demander les sacrements d'initiation chrétienne. Je pense aussi à toutes ces laïcs qui, de leur propre initiative, sans avoir été mandatés par la hiérarchie, se rassemblent depuis quelques années, tous les ans, pour un congrès mission qui a rassemblé en France, dans les grandes villes de France, parce qu'une fois sur deux, un an sur deux, c'est ou bien à Paris, ou bien délocalisé dans les grandes métropoles françaises, eh bien, qui rassemble jusqu'à 15 000 personnes. Moyenne d'âge, 30 ans. Moyenne d'âge, 30 ans. Si je compare à un très bel événement pourtant organisé par les évêques de France, qui s'appelle Kérigma, auquel j'ai participé pour remettre la première annonce au cœur de la mission de l'Église, nous étions 2500, moyenne d'âge, 65 ans. Aussi, l'objet de ce livre pourrait se résumer par ces mots du pape Benoît XVI dans son testament spirituel, qui m'ont, pour ma part, beaucoup marqué. Restez ferme dans la foi, ne vous laissez pas ébranler. Restez ferme dans la foi, ne vous laissez pas ébranler. Et ce voudrait donc un encouragement fait aux fidèles et aux pasteurs à ne pas être ces chiens muets dénoncés par le prophète Isaïe au chapitre 56, versets 10 et 11 de son livre, et commenté par Saint Grégoire le Grand dans sa règle pastorale. J'avoue que quand j'ai été nommé évêque, le premier livre que j'ai relu, parce que sans doute je l'avais étudié dans mes études antérieures, au moins en patristique, c'est la règle pastorale de Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand est un pape qui est mort en 604, donc qui est du 6e, 7e siècle, qui était un pape qui a dû faire face à des grands bouleversements aussi, l'assaut de l'Empire romain qui avait commencé bien avant, mais par les barbares. Et puis voilà, ce pape qui était d'ailleurs perclus de maladie tout au long de son pontificat, qui a quasiment gouverné allongé sur son lit de malade, même s'il se levait comme de temps en temps, a écrit beaucoup de choses, commenté l'écriture de manière abondante, comme beaucoup de pères de l'Église de son époque, il est d'ailleurs un des docteurs de l'Occident. Saint Grégoire le Grand a écrit pour les évêques de son temps une règle pastorale qui n'a pas pris une ride, qui s'enracine vraiment dans l'Écriture sainte sur la mission des pasteurs et en particulier des évêques. Je vous lis ces pages qui m'avaient beaucoup marqué quand je les relus récemment et qui vous diront pourquoi j'ai pris ce sous-titre « Ne soyons pas des chiens muets ». Je cite « Craignant de perdre la faveur des hommes, des pasteurs mal avisés redoutent souvent d'exprimer librement où est le bien. Et dès lors, suivant le mot de la vérité, ils ne servent pas le troupeau confié à leur garde avec le dévouement du berger, mais comme des mercenaires, ils fuient quand ils voient le loup, se dissimulant à l'abri de leur silence. Aussi le Seigneur les admoneste-t-il par le prophète, « Chien muet, incapable d'aboyer. Il se plaint d'eux, et là il cite Ézéchiel, « Vous n'êtes pas montés pour faire front. Vous n'avez pas dressé des remparts pour la maison d'Israël de façon à tenir bon dans le combat au jour du Seigneur. » Le chien, on le sait bien dans nos pays pyrénéens, le chien de berger, hein, qui accompagne le berger et les troupeaux qui vont vers les estives, eh bien, c'est celui qui maintient le troupeau sur le bon chemin. C'est celui qui garde le troupeau, qui lui évite de tomber dans les ravins, qui le conduit jusqu'aux estives, c'est-à-dire ces frais pâturages du psaume 22, le psaume du bon pasteur. En un mot, qui les conduit au salut dans l'Église, est précisément, dans le Christ, le sacrement universel. Est-ce que nous avons bien toujours conscience que l'Église demeure dans le Christ, le sacrement universel du salut, en dehors duquel il n'y a pas de salut. Vous voyez ce que je veux dire? De manière, tout ça peut se décliner de manière très nuancée. Mais oui, sans le Christ, il n'y a pas de salut. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il peut avoir des voies qui ne sont pas ordinaires pour rejoindre les hommes. C'est le « N'ayez pas peur » de Saint Jean-Paul II qui nous a tous tellement marqués. Mon propos est donc dans ce livre de rappeler quelques vérités fondamentales, d'où quatre chapitres. Premier sur l'Église, l'Église se réveille dans les âmes, selon une expression de Romano Guardini, hein, qui est le maître à penser, on pourrait dire, de Joseph Ratzinger, et qui a redit ses paroles, les a commentées devant les cardinaux, le jour où il a pris congé de son ministère pétrinien, le 28 février 2013. Le sacerdoce, d'où le deuxième chapitre qui est intitulé « Seigneur, donnez-nous de saints prêtres », selon l'expression de la dévotion populaire devant le Saint-Sacrement. La formation des laïcs, d'où le titre du troisième chapitre « On demande des laïcs formés ». Et enfin, la mission prophétique de l'Église, surtout dans le monde de ce temps, d'où le quatrième chapitre « Dialogue de sourds ou dialogue du salut ». Ce dialogue du salut qui est le sommet du dialogue, et que Saint Paul VI a exprimé dans son encyclique programme, celle de son pontificat, lorsqu'il a été élu pape en 1963, alors qu'il était, 63 c'est ça, alors qu'on était en plein Concile Vatican II, et qui écrit l'encyclique Ecclesiam Suam, centrée sur le dialogue du salut, qui est un dialogue qui est ordonné à l'annonce de l'Évangile. Sans doute que je parlerai essentiellement sur l'Église et le sacerdoce. Car la crise de l'Église est évidemment très liée à la crise du clergé, dont les abus sexuels qui ne concernent, grâce à Dieu, qu'une minorité de prêtres, pas seulement de prêtres même, mais aussi de fidèles laïcs, comme on le sait, engagés dans l'Église, sont comme la manifestation la plus singulière et la plus dramatique. Le rappel de ces fondamentaux que nous recevons de Dieu lui-même dans sa révélation est aussi motivé par le fait que beaucoup peuvent prendre prétexte de cette crise des abus dans l'Église pour proposer des réformes, et ce n'est pas forcément mal intentionné d'ailleurs, qui remettent en cause les fondements même de la foi catholique, précisément en matière d'ecclésiologie, de théologie du sacerdoce, d'anthropologie et de morale, avec cette obsession d'adapter la foi de l'Église et son organisation aux évolutions du monde. Ce qui traverse l'essentiel de l'ensemble de cet essai, d'où le titre « Le temps des saints », c'est que la première réforme dont l'Église a besoin, aujourd'hui comme hier, mais aujourd'hui plus que jamais, c'est celle de la sainteté. Comme disait Bernanos, les vrais réformateurs, ce sont les saints. Quand l'Église et ses ministres ont couru le risque à travers son histoire du pouvoir, de l'attrait du temporel et de la mondanité, quand ils s'engonçaient dans leur richesse, voire dans leur corruption, Dieu n'a pas suscité des réformes pour que les fidèles deviennent plus saints, mais il a suscité des saints pour réformer l'Église. Et une des figures qu'a beaucoup souligné Bernanos, sur laquelle il s'est beaucoup étendu, c'est celle de saint François d'Assise, figure si chère à notre pape François, et on peut penser que ça n'est pas indifférent à ce mouvement de réforme que lui-même voudrait pour l'Église. Je ne résiste pas à la tentation, mais qui n'est pas péché, justement parce que tentation n'est pas péché, de vous lire un passage d'une magnifique catéchèse de Benoît XVI sur Saint-François d'Assise. C'était le 27 janvier 2010. Et il dit ceci, en commentant cette fameuse rencontre de François d'Assise dans la chapelle de San Damiano, en bas d'Assise, qui était en ruine, mais où il y avait le crucifix, hein, ce crucifix byzantin, hein, qui est l'emblème même de Saint-François et des franciscains. Et il commente en disant « Cet événement qui a probablement eu lieu en 1205 fait penser à un autre événement semblable qui a eu lieu en 1207, le rêve du pape Innocent III. Celui-ci voit en rêve que la basilique Saint-Jean de Latran, l'église mère de toutes les églises, s'écroule. Et un religieux petit et insignifiant la soutient de ses épaules afin qu'elle ne tombe pas. Il est intéressant de noter d'une part que ce n'est pas le pape, c'est Benoît XVI qui parle, ce n'est pas le pape qui apporte son aide afin que l'église ne s'écroule pas, mais un religieux petit et insignifiant dans lequel le pape reconnaît François qui lui rend visite. Innocent III était un pape puissant, d'une grande culture théologique et d'un grand pouvoir politique. Toutefois, ce n'est pas lui qui renouvelle l'église, mais le religieux petit et insignifiant. C'est Saint François, appelé par Dieu. Mais d'autre part, il est intéressant de noter que Saint François ne renouvelle pas l'Église sans ou contre le pape, mais seulement en communion avec lui. La différence qu'établira aussi Bernanos entre Saint François d'Assise et un peu plus tard, Luther. Les deux réalités vont de pair. Le successeur de Pierre, les évêques, l'Église fondée sur la succession des apôtres et le charisme nouveau que l'Esprit-Saint crée en ce moment pour renouveler l'Église. C'est ensemble que se développe le véritable renouveau et vous avez ici quelque chose qui vous fait comprendre en profondeur ce que c'est que la synodalité. La synodalité, c'est marcher ensemble, c'est mettre ensemble les charismes autant d'institutions que extraordinaires que l'Église, que l'Esprit-Saint prodigue à son Église à toutes les époques et en particulier aux époques qui exige des réformes profondes, les saints et les successeurs des apôtres, le pape et les apôtres. Mais celui qui sauve l'Église ou qui réforme l'Église, ce n'est pas tant le pape que les charismes, ceux qui reçoivent des charismes de l'Esprit-Saint et qui peuvent être des religieux insignifiants ou des pauvres et simples laïcs dans leur devoir d'État. Je souligne en particulier que la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, qui est la constitution centrale du Concile. Tout le reste découle de cette vision de l'Église que nous ont donnée les pères conciliaires à Vatican II. A placé au cœur de son enseignement la vocation universelle à la sainteté. Vous savez quels sont les 8 chapitres de cette constitution dogmatique sur le mystère de l'Église, Lumen Gentium, qui veut dire évidemment lumière des nations, ce que le Christ est annoncé par le prophète Isaïe, et ce que l'Église dans le Christ est appelée à être dans le monde, lumière des nations. À la manière de la lune et pas du soleil, parce qu'elle ne tient pas sa lumière d'elle-même, mais elle reflète la lumière qui vient du soleil et qui est le Christ. C'est ce que saint Augustin appellera le mysterium lunae, le mystère de la lune, qu'on peut appliquer aussi bien à l'Église qu'à la Vierge Marie. 8 chapitres. Premier chapitre, l'Église mystère. L'Église est un mystère. Deuxième chapitre, le peuple de Dieu. L'Église est un peuple, parce que Dieu veut convoquer tous les hommes, qui a commencé dans le peuple de l'Ancienne Alliance et qui continue à travers le peuple que le Christ a fondé, avec la diversité de ses membres. Troisième chapitre, le Concile commence à définir les différents membres du peuple de Dieu, à commencer par, chapitre 3, la hiérarchie et plus particulièrement l'épiscopat, mais il faut entendre aussi le presbytérat et le diaconat, les ministres ordonnés. Quatrième chapitre, les fidèles laïcs. Cinquième chapitre, on s'attendait à voir les consacrés. Ben non. Cinquième chapitre, vocation universelle de tous les baptisés à la sainteté. Sixième chapitre, les religieux qui font profession de sainteté et qui rappellent aux pauvres laïcs et évêques que nous sommes, engagés dans une vie apostolique dans le monde, eh bien, qui nous rappellent que nous sommes tous appelés à la sainteté par notre baptême commun, qui nous établit tous dans une égalité profonde de dignité. Il n'y a rien de plus important que d'être devenu enfant de Dieu pour le baptême, par le baptême, pour entrer en communion d'amour avec le Seigneur. Le sacerdoce ministériel n'étant qu'un service, même s'il nous configure ontologiquement au Christ. Puis ensuite, chapitre 7, la dimension eschatologique, l'accomplissement eschatologique de l'Église dans le royaume des cieux, et nous sommes en tension vers le retour du Christ, comme on l'a dit dans il y a quelques instants. Et enfin, le 8e chapitre, la mission de la Vierge Marie dans le salut opéré par le Christ et continué par l'Église. Ce qui me fait dire que le Concile Vatican II a eu vraiment comme première intention une réforme intérieure de l'Église centrée sur la vocation universelle des baptisés à la sainteté. Et comme seconde intention qui lui est intrinsèquement liée, de promouvoir un nouvel élan missionnaire. Il faudra attendre le grand discours de Benoît XVI à la Curie romaine en décembre 2005 pour rompre avec une herméneutique politique, comme il le dit du Concile, où l'on oppose les fonctions de manière dialectique et s'établir dans une herméneutique de la foi qui seule peut saisir le mystère. Et l'Église est d'abord un mystère avant d'être une organisation, une administration, une institution qui fonctionne. Au terme du grand jubilé de l'an 2000, le 6 janvier 2001, Jean-Paul II signait la lettre apostolique « Novo Millennio Ineunte » au début du nouveau millénaire. Je vous conseille de la relire, parce que c'est une feuille de route que le pape Benoît XVI, au lendemain de ce grand jubilé de l'an 2000, le grand jubilé de l'incarnation, donne à l'Église qui entre dans le troisième millénaire. Ne me dites pas qu'en 2023, le troisième millénaire est déjà derrière nous. Nous sommes encore au tout début de ce troisième millénaire. Et je pense que cette feuille de route est encore valable pour aujourd'hui. C'est d'ailleurs un commentaire magnifique du Concile Vatican II. Le premier chapitre rappelle les grands événements du jubilé, qui est un événement de grâce, qui a touché beaucoup de catégories de fidèles qui ont participé à ce grand jubilé, avec sa grâce propre, en particulier l'indulgence plénière, dont parle particulièrement le pape Jean-Paul II dans ce premier chapitre. Puis ensuite, vous avez une espèce de condensé de l'enseignement du Concile, à commencer par la contemplation du Christ. Il y a eu un très beau commentaire du Concile par un dominicain qui s'appelle le père Le Guillou, hein, qui s'appelle « Visage du Christ ressuscité ». Voyez, donc il y a une contemplation du visage du Christ, une petite synthèse de toute la christologie, hein, de l'enseignement de l'Église. Troisième chapitre, « Repartir du Christ », c'est celui-là que je vais m'arrêter. Et quatrième chapitre, « Témoin de l'amour », la mission de l'Église. Dans le troisième chapitre, intitulé donc « Repartir du Christ », Saint Jean-Paul II fait de la sainteté une urgence pastorale pour l'entrée de l'Église dans le troisième millénaire. Je vous lis quelques passages, le numéro 30 de Novo Millennium, au début du nouveau millénaire. « Et tout d'abord, je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté. Une fois le jubilé terminé, la route ordinaire reprend, mais présenter la sainteté reste plus que jamais une urgence de la pastorale. » Et il dit ceci, pour se raccrocher directement à ce chapitre 5 fondamental de l'enseignement du Concile, en particulier sur l'Église, « Il faut alors redécouvrir, dans toute sa valeur de programme, le chapitre 5 de la constitution dogmatique Lumen Gentium, consacré à l'appel universel à la sainteté. Si les pères conciliaires ont donné tant d'importance à ce sujet, ce n'est pas pour conférer une sorte de touche spirituelle à l'ecclésiologie, mais plutôt pour en faire ressortir un dynamisme intrinsèque et caractéristique. La redécouverte de l'Église comme mystère, c'est-à-dire comme peuple uni de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint, ne pouvait pas ne pas entraîner aussi la redécouverte de sa sainteté, entendue au sens fondamental d'appartenance à celui qui est par excellence le Saint, le trois fois Saint. Dire que l'Église est sainte signifie présenter son visage d'épouse du Christ pour laquelle il s'est livré précisément en vue de la sanctifier. » Rappeler cette vérité fondamentale, dit-il au numéro 31, en en faisant le fondement de la programmation pastorale dans laquelle nous nous engageons au début du nouveau millénaire, pourrait au premier abord sembler quelque chose de peu opérationnel. Peut-on programmer la sainteté? Que peut signifier ce mot dans la logique d'un plan pastoral? Et je vous passe le reste où il essaie d'expliquer combien cela est très concret. Il est temps, enfin, de proposer à nouveau à tous avec conviction ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. J'aime bien cette expression, vous voyez. Ce haut degré, qui pourrait faire peur, de la vie chrétienne ordinaire. Car la sainteté n'est pas réservée à une élite, de héros, hein, qui seraient capables de choses extraordinaires, sans doute. Sans doute, ceux qui ont une vie extraordinaire, même si c'est souvent dans l'ordinaire de leur vie, jusqu'à l'héroïsme, on parle de l'héroïcité des vertus, quand on enquête sur la sainteté d'un serviteur de Dieu, eh bien, ceux qui sont canonisés béatifiés, bon, qui sont présentés comme des modèles à suivre, comme des exemples qui nous encouragent dans notre vie, qui intercèdent pour nous, mais il y a la cohorte des saints qui sont inconnus, que nous célébrons en particulier à la fête de la Toussaint, c'est 144 000 hein, de l'Apocalypse, qui signifie un nombre infini, que Saint Jean-Paul II appelait les soldats inconnus de la sainteté. Les soldats inconnus de la sainteté. Et François, dans sa belle lettre apostolique à laquelle je vais arriver, dit les saints de la porte d'à côté. Les saints de la porte d'à côté, qui sont concernés par ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. Je ne sais pas si on a vraiment entendu cet appel. Mais ça n'est pas fini. Je note, et cela me semble très significatif et très important, que si l'élection de François, le 13 mars 2013, a été précédée par des congrégations générales, comme il se doit, entre les cardinaux du monde entier, qui vont, pour ceux qui ont moins de 80 ans en tout cas, élire le successeur de Pierre, qui se rassemblent pour faire connaissance les uns avec les autres, parce que le collège Carnélis est tellement dilaté dans le monde entier que beaucoup ne se connaissent pas. Et ils discutent entre eux des défis que l'Église a relevés dans le monde d'aujourd'hui, en faisant un état des lieux de la situation du monde, de la situation de la foi, de la situation de l'Église. Pas seulement en Europe, parce que nous sommes, nous, manifestement très européo-centrés. Mais l'Église, elle dépasse infiniment les frontières de l'Europe, même si c'est bien le berceau du christianisme. Donc, la feuille de route qui était donnée à celui qui serait élu pape, c'était de réformer la curie, et ainsi de réformer l'institution ecclésiale. Ce à quoi le pape François s'est en effet attelé. On ne peut pas le nier. Le 19 mars 2018, il publie une exhortation apostolique qui n'a pas été précédée par des effets d'annonce. Contrairement à Evangelii Gaudium, qui est son exhortation apostolique programme de son pontificat, la joie de l'évangile, mais qui a été annoncée puisqu'elle est une exhortation post-synodale d'un synode sur l'évangélisation qui a été présidée par Benoît XVI, son prédécesseur. Qui n'a pas été précédée d'effets d'annonce comme Laudato Si, était déjà dans les tuyaux de Benoît XVI, qu'on a appelé d'ailleurs le pape vert, parce qu'il est beaucoup intervenu sur les questions de l'écologie Benoît XVI. Cette exhortation apostolique, on en a eu l'annonce un mois avant. Gaudete et exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Vous connaissez cette exhortation apostolique, il faut la lire. Hein. Gaudete et exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Il est assez significatif d'ailleurs que le titre de cette exhortation apostolique sur la sainteté, ou la vocation à la sainteté, qui renoue avec le chapitre 5 Magensium, avec Novum Inuneunte, qui voulait en faire la programmation pastorale principale de l'Église entrant dans le troisième millénaire, est tiré de la huitième béatitude, celle des persécutés pour la justice, où Jésus, prenant alors la foule à partie, après avoir dit « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux », conclut en disant « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on dit toutes sortes de choses de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Gaudete et exultate, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi que ont été traités les prophètes. » Voyez, ça veut dire que François, qui présentera dans cette exhortation apostolique le programme de la sainteté, en le tirant, selon la tradition ininterrompue de l'Église, du sermon sur la montagne, en saint Matthieu, et particulièrement de son exorde, qui est le texte des béatitudes, des huit béatitudes chez saint Matthieu, s'arrête en particulier à cette dernière béatitude qui éprouve au creuset la perfection chrétienne, la sainteté chrétienne, qui est celle de la persécution pour la justice. Rendre témoignage à la vérité jusqu'à la persécution, comme nous le dit ici le pape François. Comme pour nous dire cette exhortation apostolique, qui moi ne m'a pas laissé indifférent, mais je vois que vous non plus, n'oubliez pas que la première vraie réforme dont l'Église a besoin, c'est celle de la sainteté. Vous vous rappelez de Mère Teresa, disant à un prêtre un peu contestataire des années 70, qui avait des comptes à régler avec l'Église institution, et qui pensait qu'il y avait tellement de choses à réformer dans l'Église, qui va voir Teresa de Calcutta, parce qu'il dit, elle me comprendra, parce que tous ceux à qui je parle ne me comprennent pas, et restent sourds à mes revendications de réforme. Et elle lui dit, après lui avoir déversé son sac, il lui dit, vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans l'Église? Et elle répond avec ses yeux à se noyer dedans, et elle dit, oui, vous et moi, vous et moi, il faut promouvoir une pastorale de la sainteté. L'Église est un mystère, elle est le sacrement universel du salut, elle est le sacrement de notre sainteté. La première définition de l'Église qui nous est donnée par Lumen Gentium, au numéro 1, c'est « L'Église est dans le Christ comme le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen ou l'instrument de l'union intime des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, en quoi réside précisément la sainteté. L'Église se réveille dans les âmes et non dans les structures. Tant qu'on n'aura pas compris que la première réforme dont l'Église a besoin, c'est ma réforme à moi, ma conversion, mon approche de la sainteté à laquelle je suis appelé tous les jours par le Seigneur, aucune réforme structurelle n'aboutira et toutes seront emportées par le vent de l'histoire. Quels que soient les dégâts que ces réformes pourraient faire, mais moi j'ai confiance. Aussi, méfions-nous des réformes de structure. Le synode sur la synodalité est évidemment une très bonne chose, et même une grâce pour l'Église. Mais c'est vrai que quand j'ai lu l'Instrumentum Laboris, qui se voulait le reflet des synthèses diocésaines dans le monde entier, en particulier en Europe, ben, j'étais un petit peu inquiet personnellement. Même si je savais bien que le synode n'était pas dans le document de travail, mais dans un événement de grâce où l'Esprit-Saint est particulièrement convoqué. La synthèse doctrinale que j'ai lue, et je m'en doutais, est complètement différente de cet instrumentum laboris. Au grand dam certainement de certains, que je ne juge pas, mais qui manquent sans doute d'une approche suffisamment théologale du synode sur la synodalité. J'avais peur qu'on soit à nouveau obsédé, et ça, c'est une conception très européocentrée. D'ailleurs, les pères, les évêques qui nous ont représentés, qui nous ont partagé leur expérience du synode sur la synodalité, les quatre évêques, plus le cardinal Aveline qui était nommé par le pape, et une laïque consacrée, une consacrée, diocèse de Rodez, qui ont été nommés par le pape pour enrichir la délégation française, bien, nous ont dit qu'ils avaient été très marqués par l'expérience de l'universalité de l'Église. Et que d'écouter les évêques africains, en particulier les évêques d'Orient et les évêques d'Asie, ouvrait un peu les perspectives dans lesquelles nous sommes un peu enlisés, bien souvent. J'avais peur qu'on soit obsédé encore par des questions d'organisation, de fonctionnement, de réformes structurelles. Mais ce n'est pas ça qui est premier. C'est la sainteté et la mission qui devraient être premières. Et en effet, la synthèse nous montre bien que c'est bien la nature missionnaire de l'Église qui a occupé principalement les pères et les mères du synode autour de la constitution Lumen Gentium que je viens d'évoquer. Le pape Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, son encyclique sur la mission, écrivait au numéro 90, je retrouve le passage que j'ai cité, « Il ne suffit pas de renouveler les méthodes pastorales, ni de mieux organiser et de mieux coordonner les forces de l'Église, ni d'explorer avec plus d'acuité les fondements bibliques et théologiques de la foi. Il faut susciter un nouvel élan de sainteté chez les missionnaires et toutes les communautés chrétiennes. » Et je vous renvoie aussi, je le cite et commente ici, à ce qu'on appelait la vision prophétique de Joseph Ratzinger, dans cette interview que je notais au début, en 1969, où il dit « Le futur de l'Église ne viendra pas de ceux qui s'accommodent sans réfléchir du temps qui passe, ou de ceux qui ne font que critiquer en partant du principe qu'eux-mêmes sont des jalons infaillibles. Il ne viendra pas non plus de ceux qui empruntent la voie de la facilité, qui cherchent à échapper à la passion de la foi, considérant comme faux ou obsolète, tyrannique ou légaliste, tout ce qui est un peu exigeant, qui blesse ou qui demande des sacrifices. Le futur de l'Église, encore une fois, sera, comme toujours, remodelé par des saints, c'est-à-dire par des hommes dont les esprits cherchent à aller au-delà des simples slogans à la mode. » Et il ajoutait que l'Église de demain sera réduite. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Nous en sommes partis, à partir des statistiques, n'est-ce pas ? Les hommes, écoutez bien ça, c'est en 69 qui dit ça, les hommes évoluant dans un monde complètement planifié vont se retrouver extrêmement seuls. S'ils perdent totalement de vue Dieu, ils vont réellement ressentir l'horreur de leur pauvreté. Alors ils verront le petit troupeau des croyants avec un regard nouveau. Ils le verront comme un espoir de quelque chose qui leur est aussi destiné, une réponse qu'ils avaient toujours entièrement cherchée. J'insiste pour terminer sur le deuxième chapitre, c'est-à-dire sur le sacerdoce. À commencer par le sacerdoce du Christ. Entendons-nous bien, hein ? Parce que le Christ est prêtre, parce qu'il est même grand prêtre, c'est pas seulement l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous le dit abondamment, en commentant d'ailleurs l'Évangile, mais c'est aussi Saint Jean, hein, dans l'Évangile, Jésus lui-même, à travers l'Évangile de Saint Jean, en partie au chapitre 6, dans le discours du pain de vie, et le chapitre 17, est bien nommé la prière sacerdotale de Jésus. Parce que Jésus est essentiellement prêtre et grand prêtre, qui a été pris d'entre les hommes, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu et offrir dons et sacrifices pour le péché. Car ce qui définit le sacerdoce, c'est d'offrir des sacrifices et d'exercer une mission de médiation entre Dieu et les hommes. Une médiation ascendante par l'offrande de sacrifices, une médiation descendante par la communication des dons que Dieu fait aux hommes en réponse aux sacrifices. Mais parce que le Christ est prêtre et parce qu'il est grand prêtre, tout baptisé est prêtre. Ce qui est premier, c'est le sacerdoce des baptisés. Parce que nous sommes unis par le baptême au Christ prêtre, nous sommes prêtres. Et donc appelés par Jésus-Christ, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à offrir notre vie en sacrifice, par le sacrifice du Christ. Et c'est là que devient important le service ou le ministère des prêtres au sang du sacerdoce ministériel et donc au sang du sacrement de l'ordre. C'est pour le plein déploiement du sacerdoce baptismal que Jésus a institué le sacerdoce ministériel. Mais nous sommes simplement au service de ce déploiement et pas au service de notre sacra potestas qui demeure authentique, c'est-à-dire le pouvoir sacré qui nous a été conféré par le sacrement de l'ordre. Ou ce, j'ai trouvé la meilleure définition, mais il y en a beaucoup d'autres dans l'Écriture sainte, de notre participation au sacerdoce du Christ, et bien, relisez saint Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir votre vie, toute votre personne, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est le culte véritable que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Quand, dans le numéro 10, que je relirai peut-être à l'instant, de Lumen Gentium, le concile parle du sacerdoce commun des fidèles, il dit que les fidèles exercent leur sacerdoce en participant à l'Eucharistie, en unissant l'offrande de leur vie comme autant de sacrifice spirituel au sacrifice du Christ, et qu'ils témoignent des merveilles de Dieu qui s'opèrent dans leur vie concrète à travers le témoignage d'une vie sainte. C'est pour ça qu'on appelait souvent le sacerdoce commun des fidèles ou sacerdoce baptismal, selon les expressions du concile, le sacerdoce de la vie sainte, qui nous concerne tous, moi comme vous. Il me semble très important de rappeler particulièrement les relations entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles, à l'heure où l'on dénonce le cléricalisme et où l'on en vient à remettre en cause l'identité même du prêtre, tant il faudrait en découdre avec cette sacralisation du prêtre, comme on l'entend si souvent. Et on envisagerait ces relations en termes de concurrence de pouvoir, d'une manière dialectique qui, pour ma part, je pense, est héritée du marxisme. Or, ce n'est pas du tout la perspective de Vatican II dans Lumen Gentium numéro 10 que je me permets de vous livrer in extenso parce que c'est un texte fondamental qui mérite d'être bien entendu et bien compris. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. Ad in vicem tamen ordinantur dans le texte latin. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire dans le rôle du Christ in persona Christi, le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Les fidèles, eux, de par le sacerdoce royal qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie et exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, le renoncement et leur charité effective. Vous voyez, il y a deux, le père de la Soujolle, qui est un professeur d'ecclésiologie qui vient de prendre sa retraite, à Fribourg en Suisse, dit ceci, il y a deux forma mentis, je devrais dire de formé mentis, mais qu'importe, deux forma mentis, deux formes d'esprit, qui commande les relations, la manière dont on peut considérer les relations au sein d'un groupe social. La forma mentis de l'équilibre et la forma mentis de l'harmonie. L'équilibre se dit de deux forces physiques en tension. Il faut arriver à trouver un point d'équilibre dans cette tension entre les deux, sachant qu'il y en a toujours un qui risque d'ôter à l'autre ce qui lui permet d'exister. Quand on parle des prêtres et des laïcs, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ou bien c'est le clergé qui l'emporte sur le peuple qui lui est soumis, et c'est ce qu'on appellera le cléricalisme. Ou bien c'est le peuple qui revendique sa place contre l'abus de pouvoir du clergé, et alors ça s'appelle le démocratisme. Deux conceptions qui sont étrangères à ce que Jésus a voulu pour son Église. Mais au contraire, l'harmonie. L'harmonie se dit de deux réalités différentes, non seulement ici d'essence, mais de degré, qui sont complémentaires, appelés à exercer leur sacerdoce, en l'occurrence ici, de manière en harmonie, de manière harmonieuse, parce qu'ils sont ordonnés l'un à l'autre. Ils sont ordonnés mutuellement l'un à l'autre. Pas seulement le prêtre est ordonné aux fidèles, mais le fidèle aussi sont ordonnés aux prêtres. Voyez. Et le principe d'ordre qui est fondateur de cette harmonie, ben c'est le Christ, prêtre, c'est le sacerdoce du Christ, auxquels tous sont appelés à participer, chacun selon son mode propre. Et j'insiste ici sur, et ce sera la conclusion je pense, ça va encore là à peu près, j'insiste ici sur trois clés de la sainteté du prêtre. sachant que le premier effet du sacerdoce, du sacrement de l'ordre, pardon, est ce que l'on appelle le caractère sacramentel, comme pour le baptême ou la confirmation. Le caractère sacramentel qui le configure au Christ et le rend capable de poser des actes qui excèdent la capacité de sa nature. Il est évident que quand le prêtre prend du pain et du vin, ben, en prononçant les paroles du Christ, pour que ça devienne le corps et sang du Christ, ça excède complètement ses capacités naturelles. Il n'y a qu'une configuration ontologique par le sacrement de l'ordre au Christ qui peut le rendre instrument d'un tel prodige. Et d'ailleurs, lorsque le prêtre prononce les paroles de consécration, il ne dit pas « ceci est le corps du Christ », il dit « ceci est mon corps ». Il prête son humanité et ses lèvres au Christ lui-même, et c'est dans sa personne qu'il peut prononcer des paroles avec la même efficacité que Jésus au soir de la dernière scène. Voyez. Mais alors, l'efficacité du sacrement n'est pas conditionnée par la sainteté du ministre. Autrement, ça se saurait. Jésus n'a pas voulu soumettre l'efficacité de sacrement aussi saint pour sanctifier les hommes à la sainteté du ministre. C'est une hérésie condamnée déjà par saint Augustin et par les conciles de l'époque qui s'appelle le donatisme. Ça veut dire que le sacrement de l'ordre, dans son premier effet, qui est le caractère sacramentel, fait de nous des consacrés, mais pas des saints. C'est pas parce que j'ai reçu le sacrement de l'ordre que je suis un saint. Voyez, c'est important de se le dire, de se le rappeler, et que les fidèles le sachent aussi de manière réaliste. Le second effet du sacrement de l'ordre, c'est la grâce sanctifiante. Tout sacrement porte avec lui une grâce sanctifiante, c'est-à-dire qui me sanctifie, qui n'est autre, pour le prêtre, dans le sacrement de l'ordre, que la grâce baptismale fondamentale, dans le déploiement, sans doute, de cette dimension sacerdotale inhérente. Et la dimension sacerdotale inhérente au baptême, c'est l'offrande de sa vie, comme autant de sacrifices spirituels, par Jésus-Christ, c'est-à-dire par son sacrifice, et le témoignage d'une vie sainte, qui me fait devoir d'être saint, dans l'exercice même de mon ministère. Autrement dit, la première clé de la sainteté du prêtre vient de cette expression de saint Augustin dans une homélie pour l'anniversaire de son ordination épiscopale que l'on lit d'ailleurs dans le bréviaire pour la fête de saint Janvier, vous voyez, qui est une mémoire tout à fait facultative. Eh bien, saint Augustin dit ceci, formule que nous connaissons bien, ami de la mémoire, « Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien. Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien. L'humanité du prêtre que je suis, ou de l'évêque que je suis, n'est pas comme l'humanité du Christ. » Alors, excusez-moi de prendre un langage théologique, mais c'est ce qui le fait comprendre. L'instrument conjoint de sa divinité, en vertu de l'union hypostatique, l'humanité du Christ est sainte tout le temps, puisqu'elle est l'instrument conjoint de sa divinité, qui, la nature humaine et la nature divine étant unies de manière tellement inséparable dans la personne divine de Jésus-Christ, son humanité tellement assumée par la personne divine du Fils de Dieu, que son humanité est toujours sainte, et elle sanctifie. L'humanité du prêtre, elle, demeure l'instrument séparé, disent les théologiens. Autrement dit, reste l'humanité d'un pauvre pécheur, qui a besoin, comme baptisé, qu'il demeure tout en étant prêtre, de se convertir et de se sanctifier sans cesse. C'est le meilleur antidote au cléricalisme que cette sanctification du prêtre avec les baptisés, solidaire des baptisés, mis à part sans doute par le sacrement de l'ordre. Pour vous, je suis évêque, mais jamais séparé. Jamais séparé. Vous voyez ? Très important de considérer ça. Moi, je l'expérimente et je l'expérimentais dans mon sacerdoce. Je ne suis pas dispensé de me sanctifier comme les baptisés, donc avec les baptisés, et même par les baptisés. Voyez, dans le corps du Christ, la tête n'est jamais séparée du corps. Elle est solidaire du corps, mais en plus, ce n'est pas parce que je suis prêtre que je ne demeure pas un baptisé. Et tant que je n'aurai pas assumé dans ma personnalité la communion des deux sacerdoces, des deux participations à l'unique sacerdoce du Christ, sacerdoce ministériel et sacerdoce comme un des fidèles, je ne saurais jamais m'ajuster vraiment au peuple de Dieu. La deuxième clé, j'y passe plus rapidement parce que je crois que le temps est passé, c'est la prière qui irrigue l'apostolat. Et j'insiste beaucoup dans ce livre sur le fameux livre de Don Chotard, L'âme de tout apostolat, hein, qui a été publié à l'époque à 200 000 exemplaires et qui, avec les manuscrits autobiographiques qu'on appelait à ce moment l'histoire d'une âme, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et avec le témoignage de Charles de Foucault, qui a été canonisé un peu plus tard, mais qui a beaucoup frappé hein, toute cette génération de prêtres du début du XXe siècle, qui les ont d'ailleurs préservés de l'américanisme, qui est une sorte d'activisme pastoral, et du modernisme, qui a été condamné par Saint Pie X à l'époque, voyez. et qui a profondément transformé toute une génération de prêtres, qui a donné des cohortes de saints prêtres, en particulier lors de la Grande Guerre. Hein. Les prêtres qui étaient au front pour aller s'occuper des moindres blessés, du moindre mourant, donner les sacrements, etc. On a des témoignages magnifiques. La prière comme âme de tout apostolat. Hein. La prière comme première mission du prêtre. Jésus a appelé ses apôtres d'abord pour être avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Donc exercer un ministère d'évangélisation avec le pouvoir d'expulser les démons. Mais il les a d'abord appelés à être avec lui. L'intimité du prêtre avec le Christ qui est une des clés de sa sainteté et de sa sanctification. Enfin, la troisième clé sur laquelle j'insiste, c'est le célibat. C'est le célibat. J'espère bien que le célibat sacerdotal ne sera pas aboli d'une certaine manière, au moins par exception, dans l'Église. Le célibat est le trésor de l'Église latine. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est très tardif. Ça a été imposé à l'Église au XIIe siècle, aux prêtres, aux clergés au XIIe siècle. Oui, sans doute, mais pourquoi ça a été, c'est devenu obligatoire, alors que déjà les orientaux s'étaient séparés de nous, hein, au moment du grand schisme. Donc ils n'étaient plus avec nous. Mais pourquoi l'Église a-t-elle statué sur le célibat obligatoire pour les prêtres au XIIe siècle pour faciliter la continence parfaite du prêtre, qui, elle, remonte à l'époque apostolique. Qui, elle, remonte à l'époque apostolique, nous le savons maintenant par toutes les études historiques qui ont été faites sur le clergé depuis l'origine, que si au début de l'Église il y avait des prêtres célibataires, il y en avait déjà, des prêtres mariés, enfin des hommes mariés qui étaient devenus prêtres, évidemment, on ne parle pas du mariage des prêtres, hein, compris que c'est une expression qui est complètement à côté de la question, et troisièmement, des prêtres veufs, mais qui n'avaient plus la possibilité de se marier, du coup, eh bien, ils étaient tous tenus à la continence. On trouve même dans les épîtres de saint Paul, en particulier aux Corinthiens, des expressions qui pourraient signifier, des exégètes très sérieux le disent, qui pourraient signifier que cette continence, en effet, était obligatoire. En tout cas, elle a été rappelée tout au long de l'Église, dès le 3e ou 4e siècle, sans que personne n'ait eu à y redire, parce que c'était déjà présent dans l'Église depuis l'époque apostolique. Et c'est sûr que cette continence était devenue malaisée pour les prêtres qui étaient mariés. Et voilà pourquoi l'Église latine a imposé le célibat. Mais on le comprend, puisque c'est le mode même de vie que le Christ Jésus a lui-même choisi, qui s'est réservé tout entier dans la continence parfaite pour l'oblation de son corps, pour l'Église, son épouse, qu'il a tant aimé qu'il s'est livré pour elle. Et le prêtre va prêter son humanité au Christ dans cette célébration de l'Eucharistie qui signifie le don total du Christ comme époux à son Église, c'est-à-dire l'humanité rachetée par l'œuvre de rédemption qu'il accomplit. Vous voyez comment c'est très convenant que le prêtre soit célibataire. Alors je sais bien que ça heurte la mentalité d'aujourd'hui, mais qui heurtait déjà la mentalité du temps de Jésus, puisqu'on disait, mais alors c'est difficile de se marier, disait, et il dit, c'est voilà, il y a des eunuques qui le sont par naissance, il y en a qui le sont par la main des hommes, et il emploie le terme eunuque, qui montre bien que cette expression était péjorative du temps de Jésus lui-même, et il y a ceux qui le sont pour le royaume des cieux, qui a des oreilles pour entendre, ce n'est pas donné à tous de le comprendre, mais c'est un don, c'est un charisme, qui nous est donné, qui nécessite en effet sans doute d'abord une formation qui a beaucoup manqué, sans doute dans l'Église de ces derniers temps, même si on y est beaucoup plus attentif depuis Pastoresse de Beauvais de Jean-Paul II, et puis ça suppose aussi un mode de vie, des moyens que l'Église nous donne pour vivre cette grâce que Dieu nous donne, de vivre le célibat qui est au cœur même de la sainteté et de la sanctification du prêtre. Et je vous dis ça en pleine crise des abus sexuels, et je n'ai pas peur de le dire. Parce que je pense que la grande majorité des prêtres vit sereinement son célibat pour le service du peuple de Dieu. Voilà, j'arrête là parce que j'aurais tellement d'autres choses à vous dire. C'est incomplet, mais ça vous permettra de vouloir lire la totalité.
Le temps des saints, ne soyons pas des chiens muets. Vous venez d'entendre l'intervention de Mgr Marc Caillé qui présentait son livre à l'abbaye de Belloc le 18 novembre 2023 à l'invitation de Radio Lapourdie et de la communauté de Belloc dans le cadre du cycle de conférences les samedis de Belloc. Le livre de Mgr Aillé a été publié aux éditions Artege.